Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de rencontrer, de retrouver le professeur Christian Saint-Étienne. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent, ne serait-ce qu'en raison de la régularité de vos parutions. Ils se souviennent en particulier de notre dernière rencontre sur cette antenne concernant donc la parution de votre précédent ouvrage, La fin de l'euro, qui a été d'ailleurs particulièrement remarqué puisqu'il a bénéficié d'une mention spéciale au dernier prix Turgot. Prix Turgot d'ailleurs pour lequel vous êtes un habitué, un des tout premiers lauréats,
oui,
avec un ouvrage qui avait en son temps interpellé Le combat de la France aux éditions SK.
Voilà.
Je crois que tout ceci est exact. Alors, je voudrais, avant qu'on rentre dans notre nouvelle rencontre et que je rappelle votre parution d'aujourd'hui, Guerre et paix au XXIe siècle, comprendre le monde demain, qui vient de sortir, donc édité par François Bourin, éditeur, et qui comprend 167 pages pour 19 euros. Voilà donc votre nouvel ouvrage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler brièvement votre parcours. Vous êtes depuis peu professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire des arts et métiers. Vous êtes docteur d'État en sciences économiques et titulaire de deux masters en économie. Et vous avez travaillé notamment au Fonds monétaire international. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et de rapports officiels pour lesquels vous avez obtenu 6 prix universitaires et académiques. Voilà, ce qui pose déjà les compétences au plan économique. Mais aujourd'hui, vous sortez un petit peu, on va dire, du cadre habituel de l'économiste classique pour investir, si je puis dire, le champ de la géopolitique et de la géostratégie. Alors, avant de vous passer la parole, pour donner le ton de cet ouvrage, je voudrais lire en page 8 de cet ouvrage ce que vous écrivez. Quand les gouvernements et les spécialistes sont incapables de prévoir l'évolution économique des 12 prochains mois, est-il concevable d'anticiper ce qui va se passer au cours du XXIe siècle ? Et votre horizon, c'est plutôt l'année 2050. C'est en tout cas l'ambition de ce livre « entre guillemets fou ». Il raconte l'histoire du XXIe siècle comme si elle avait déjà eu lieu et en présentant les principales forces et les combinaisons. Il ne s'agit pas de jouer à la pitié, mais d'anticiper les grands événements à venir en faisant appel à une méthode fondée sur la raison qui marie l'apparente nécessité découlant des tendances avec la dynamique interne des stratégies des acteurs pour écrire une histoire raisonnée de notre avenir. Ce qui est déjà met la barre assez haut. Alors c'est quoi ce nouveau défi ?
Écoutez, je pense que aussi bien en France qu'en Europe, dans l'Union européenne, qu'au plan mondial, tout le monde sent bien qu'il y a une montée des enjeux. Tout le monde voit déjà les prémices d'un combat géostratégique majeur entre la Chine et les États-Unis pour devenir la première puissance mondiale. Les États-Unis ayant affirmé leur volonté à plusieurs reprises de rester la première puissance du monde, la Chine ayant directement ou indirectement rappelé qu'elle avait été l'empire du milieu, qu'elle voulait redevenir une des principales puissances de la planète, si ce n'est la principale. Donc, il est clair que ce combat géostratégique entre la Chine et les États-Unis va être totalement structurant dans les 30 prochaines années. À partir de là, se pose la question de savoir que vont faire l'Inde et la Russie, qui sont également extrêmement préoccupés par la montée de la Chine. Pas seulement du fait que la Chine s'enrichisse, la Chine a parfaitement le droit de s'enrichir, mais des méthodes utilisées par la Chine pour s'enrichir, notamment, on y reviendra certainement, mais la Chine a choisi un modèle de tout-production, puisque la consommation des ménages représente à peine un gros tiers du PIB, alors que dans tous les autres pays, c'est les deux tiers. Donc la Chine a choisi un modèle centré sur la production, elle s'appuie sur une sous-évaluation massive de sa monnaie, et par ailleurs, elle ne respecte pas les règles, puisque par exemple, dans le dernier plan de relance chinois, les entreprises étrangères étaient exclues, ce qui est contraire à l'OMC. Donc, On a un combat géostratégique majeur. On a l'Europe qui, dans tout ça, pose problème. On le verra après. Et donc, je me suis dit, comment imaginer l'avenir ? Et donc, j'ai proposé une méthode qui est justement une méthode un peu nouvelle, si je puis dire, puisque le travail de compréhension et d'analyse du futur se fait à la base de deux grandes approches intellectuelles. L'une, c'est l'anticipation des grandes tendances démographiques, économiques, urbanistiques des prochaines années, puisque les grands défis qui sont devant nous, ce sont les défis démographiques, les défis liés à l'économie entrepreneuriale de la connaissance et les défis liés à un mouvement massif de métropolisation au plan mondial. Donc j'analyse ces éléments-là. Mais j'analyse également justement le jeu des acteurs qui vont se servir de ces tendances de fond pour faire avancer leurs propres intérêts. Donc, je montre comment la Chine et les États-Unis abordent ce grand conflit.
Donc, il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, de l'économie, de la géostratégie. Voilà, je vais rassurer immédiatement nos auditeurs en leur disant que cet ouvrage est particulièrement accessible, car comme à l'habitude, il est servi par un style extrêmement aéré et accessible, aussi bien par les spécialistes que par le grand public. Alors, on parlait justement de méthodologie. Vous en avez dit tout à l'heure un mot. Vous avez rencontré des difficultés dans cette approche. Vous étiez servi par un modèle particulier où, en fait, les choses se sont déroulées assez facilement.
Je n'ai pas eu de difficultés, mais ce que je dois dire, c'est que ce que j'ai trouvé dans le livre, je ne l'avais pas prévu à l'avance.
Vous ne l'avez pas anticipé.
C'est-à-dire que la méthode que j'ai déroulée m'a conduit à des résultats que je n'avais pas forcément imaginés avant de commencer. Alors, ce que j'ai fait, si vous voulez, pour ce qui est des... afin de poser le cadre économique des 40 prochaines années, puisque je fais une anticipation du poids relatif des pays dans le PIB à l'horizon 2050, j'avais besoin d'utiliser des prévisions démographiques. Or, pour cela, nous en disposons, Dieu merci.
Et c'est la principale variable.
Alors, il y en a deux. Donc, ça, c'est la première qui est majeure. Et pour cela, nous bénéficions des travaux d'un institut américain qui est considéré comme la référence mondiale dans ce domaine, qui est le Population Reference Bureau, qui fait des prévisions d'évolution de la population par pays à l'horizon 2050. Donc, j'avais déjà cette base pour travailler sur les prévisions de l'économie mondiale à l'horizon 2050. Je précise d'ailleurs l'attention des auditeurs qu'on peut peut-être justement se dire, mais comment est-ce qu'on connaît la population à l'horizon 2050 ? Il faut savoir qu'en fait, si vous regardez à l'horizon 2030, déjà dans un premier temps, tous ceux qui auront plus de 20 ans dans 20 ans sont déjà nés. Donc si on ne se trompe pas dans le compte aujourd'hui, on sait combien il y aura de gens en 2030. Ce qu'il reste à compter, c'est le nombre d'enfants qui naîtront d'ici 2030, mais les femmes qui vont donner le jour à ces enfants sont elles-mêmes déjà nées.
D'accord.
Donc, il suffit d'avoir une anticipation du taux de fécondité des femmes et vous avez la population en 2030. De même, si vous regardez à l'horizon 2050, cette fois, il y a un degré d'incertitude supplémentaire puisque ça dépendra et du taux de fécondité des femmes dans les 20 prochaines années et de leur taux de fécondité dans les 20 années suivantes. Mais en faisant des hypothèses relativement raisonnables, on peut néanmoins anticiper que ce qu'on observe depuis une cinquantaine d'années va s'accentuer, c'est-à-dire que l'essentiel de la population de la planète va continuer de se concentrer en Asie et en Afrique. La proportion de la population planétaire concentrée en Asie et en Afrique va passer de 75 à 79% de la population. Et donc, la part qui reste à l'Europe et à l'Amérique va chuter donc de 25 à 21% de la population mondiale. Donc ça, c'est le premier élément. Mais si vous voulez faire des anticipations de l'évolution de l'économie à l'horizon des 40 prochaines années, vous devez avoir une anticipation, cette fois, de la productivité calculée comme le PIB par habitant de la planète. Alors, pour faire des prévisions sur le PIB par habitant de la planète, j'ai utilisé donc un modèle qui consiste à distinguer deux types de productivité. Une première productivité que j'appelle la productivité sectorielle, qui résulte de la hausse de la productivité du fait des transferts des campagnes vers les villes. C'est le phénomène qui est à l'œuvre massivement aujourd'hui en Chine ou en Inde. Vous prenez des paysans qui ont une très faible productivité, vous les amenez en ville pour les faire travailler dans la construction ou dans l'industrie, et vous avez immédiatement effectivement une hausse phénoménale de leur productivité. Il faut savoir que la Chine a une hausse de sa productivité de 7 à 8% par an depuis 15 ans et que les 9 dixièmes de cette hausse de productivité est liée au basculement des populations des campagnes vers les villes. Et puis vous avez une deuxième source d'évolution de la productivité, c'est celle qui vient de la productivité intensive qui est liée à la capacité d'innovation d'une économie. Et donc, en faisant des hypothèses sur la capacité des différents pays à travailler au sein de ce que j'appelle l'économie entrepreneuriale de la connaissance, vous arrivez à faire des anticipation d'évolution de la productivité. Et donc, en multipliant la productivité calculée comme le PIB par habitant par le nombre d'habitants, vous obtenez les répartitions du PIB en 2050. Donc, sur cette base-là, sur ce substrat de répartition de la population et du PIB au plan mondial à l'horizon 2050, j'imagine comment les acteurs vont construire leur politique au cours des 40 prochaines années.
Voilà, alors donc maintenant on dépasse la méthode. On est à l'horizon 2050. Qu'est-ce que vous découvrez? Quels sont les enseignements que vous découvrez après cette réflexion principale? Les principaux acteurs, si j'ai bien compris, c'est d'un côté la Chine et aussi les États-Unis.
Voilà. De même que de 1940 à 1990, pendant un demi-siècle, on a vécu dans un monde dominé par les États-Unis et la Russie, l'Union soviétique. De même, à partir de maintenant, on entre dans un monde dominé par les États-Unis et la Chine. La Chine est devenue la deuxième puissance du monde au deuxième trimestre de cette année, en passant devant le Japon. Et les États-Unis sont la première puissance du monde. Et les conflits entre eux, pour la répartition des ressources au plan mondial, vont dominer les 30 ou 40 prochaines années. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le travail lié à la dynamique des stratégies des grands pays en corrélation avec l'évolution démographique et économique de la planète, conduit à considérer que les Chinois se retrouvent à la veille d'une rupture démographique absolument majeure, encore plus forte que celle qu'on va connaître en Europe. Les Chinois sont dans
la... À partir des années 2030
2022-2023.
2022-2023.
C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2040, la population active de la Chine baisse de 10%. Et entre 2005 et 2025, le nombre de jeunes Chinois âgés entre 10 et 25 ans va chuter de 60 millions en 20 ans. C'est-à-dire que s'il y avait eu une guerre mondiale terrible et que les Chinois aient perdu 10 millions de personnes, on parlerait de 10 millions de morts, ce qui serait colossal. Et là, il y a 60 millions
qui vont disparaître.
Mais pourquoi on en parlera très peu? C'est parce qu'ils ne sont pas nés. Mais du point de vue de l'économie chinoise, ça produit le même effet.
D'accord. Alors, vous parlez justement, puisqu'en commençant par la Chine, vous balayez d'ailleurs un certain nombre d'idées reçues, enfin en tout cas de ce qu'on croit entendre sur différents médias. Vous parlez d'immaturité chinoise et de manipulation de la réalité. Et vous prenez cette image que j'aime beaucoup de l'éléphant du zoo. Alors, c'est quoi l'éléphant du zoo?
Et si vous voulez, quand vous regardez la façon dont la Chine construit à la fois son modèle économique et puis la façon dont les Chinois se sont conduits au sommet de Copenhague sur le climat, vous avez un pays qui joue de toutes les règles et de toutes les cordes pour essayer d'atteindre son objectif, c'est-à-dire de devenir très vite la deuxième puissance ou la première puissance du monde, en tout cas arriver au niveau des États-Unis. Quand vous regardez donc les leaderships chinois, il est parfaitement conscient de ce choc démographique qui s'annonce. Et donc, pour le leadership chinois, c'est absolument clé pour comprendre les prochaines années. Il faut absolument qu'ils atteignent l'objectif qu'ils se sont fixé d'être une très grande puissance économique au plus tard dans 15 ans, puisque de leur point de vue, après, ça sera extrêmement difficile d'atteindre cet objectif puisqu'ils seront en décroissance de population. Et donc, tout porte à penser que quand on regarde l'horizon des 40 prochaines années, il va y avoir deux phases très marquées. Une première phase de conflits géostratégiques qui ne seront pas forcément militaires, mais on sera toujours à la frontière. Ça pourra toujours déraper.
Et la ligne rouge sera...
C'est toujours proche. Et donc, surtout dans 5 ans, parce que les Chinois font un effort de développement de leur capacité militaire qui est absolument colossale. Les dépenses militaires de la Chine augmentent de 15% par an. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et d'ici 5 ans, ils vont commencer à se doter de capacités nucléaires et de capacités de projection de leurs armées qui vont devenir très significatives. Donc, on a une Chine qui va tout faire pour être une grande puissance d'ici 2022-2023. Le travail que j'ai fait dans ce livre et les arguments qui sont développés dans le livre me conduisent à penser que néanmoins on évitera une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui va nous conduire à penser qu'on éviterait une troisième guerre mondiale? Il y a deux séries de facteurs. Première série de facteurs rassurants, enfin l'autre série aussi d'ailleurs, mais première série, en fait ce que l'on observe c'est que le conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est un conflit de répartition des ressources, Dieu merci pour nous. Ce n'est pas un conflit idéologique, ce n'est pas un conflit religieux. c'est simplement deux nations qui veulent acquérir la prééminence au plan mondial et qui donc, à un moment donné, sur la base d'un raisonnement relativement basique, seront conduites, ces deux puissances, à se partager le gâteau, comme vous dites fort justement, pour éviter de faire péter le système et donc s'autodétruire les unes les autres. Alors donc ça, c'est la première série d'arguments. La deuxième, c'est qu'alors que le leadership chinois, qui reste encore très marqué par le Parti communiste, et ce leadership qui a été formé intellectuellement au temps de Mao, donc ce leadership chinois est encore un leadership très autocratique, très archaïque, très brutal, qui veut impérativement, c'est la Chine ou Berales.
Oui, vous parlez de clique.
Voilà, clique au pouvoir. Donc ça, c'est la clique qui est au pouvoir. Et par ailleurs, vous avez maintenant massivement l'arrivée dans la population de la classe des enfants uniques, hein, qu'on appelle les enfants empereurs en Chine, qui, eux, sont dans un modèle totalement différent. Ils n'ont pas connu les grandes famines de la période maoïste. Ils n'ont pas connu les épurations de la période maoïste. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est consommer des téléphones portables, partir en vacances, surfer sur Internet, ainsi de suite. Et donc, ce deuxième élément, quand la Chine aura vraiment affirmé sa puissance d'ici une douzaine d'années, s'il devait y avoir une tentation de la clique au pouvoir de transmuter cette puissance économique en agressivité militaire, c'est là qu'on peut penser que, même si elle est partiellement muselée, la classe moyenne chinoise exigera de son leadership une plus grande attention aux équilibres pacifiques de la planète.
Donc c'est ça, donc une sorte de pression contre des tentatives ou des tentations guerrières qui viendront de la classe moyenne et de l'enfant unique. Alors, en sens inverse, vous braquez le projecteur sur les États-Unis et vous dites que le déclin des États-Unis n'est absolument pas annoncé en raison des avantages historiques et de leur part dans la recherche, dans l'économie entrepreneuriale, etc. Alors ça, je crois que vous pouvez peut-être dire un mot sur ce que vous appelez les NBIC.
Oui.
Et puis l'économie entrepreneuriale de la connaissance, l'innovation, la connaissance, etc.
Justement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux grandes sources d'élévation de la productivité sectorielle qui bénéficie massivement aux Chinois, et l'autre qui est la productivité intensive fondée sur les innovations qui se transforment en produits et services. Or, là, c'est la spécialité des États-Unis. Ce que l'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est la montée de ce qu'on peut appeler une économie entrepreneuriale de la connaissance. Dans ce lieu sacré de l'Institut de France, d'ailleurs, je mets en garde contre une expression qui est couramment utilisée en France, qui est l'économie de la connaissance.
Tout à fait.
Où on utilise ce terme pour dire, on va faire de la recherche et d'un seul coup, on deviendra riche.
Ouais. Il faut passer à l'action.
Voilà, mais le problème, c'est de passer à l'action. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce terme d'économie entrepreneuriale de la connaissance, pour dire que, attention, dans l'économie de la connaissance, c'est l'entrepreneur qui est au centre, c'est pas le chercheur, même si le fonctionnement de l'économie entrepreneuriale de la connaissance doit conduire à faire travailler ensemble chercheurs, entrepreneurs et capitaux risqueurs, c'est l'entrepreneur qui transforme la connaissance en innovation. Et c'est la capacité de transformer en innovation qui fait la croissance. Or, ce modèle-là fonctionne très bien aux États-Unis. Les États-Unis ont été à la pointe de la révolution intellectuelle et technologique des années 90, qui était la révolution des TIC. Et ils sont toujours en pointe. L'iPad, l'iPhone sont les dernières manifestations de cette hégémonie américaine dans ce domaine. Ensuite, les Américains investissent massivement dans les biotechnologies. Et là aussi, ils sont au premier rang mondial. Et enfin, ils s'apprêtent à investir massivement dans les clean tech et tout conduit, c'est-à-dire les technologies de croissance propre, et tout conduit à penser que là aussi, ils seront en pointe. De telle sorte que quand on pense aux États-Unis aujourd'hui, on peut penser à un pays affaibli avec un déficit budgétaire significatif et des engagements militaires importants dans le monde. Mais il y a une autre vision des États-Unis qui consiste à dire que si les États-Unis aujourd'hui représentent un peu plus de 20% du PIB de la planète, en parité de pouvoir d'achat, il continue de représenter, du point de vue de cette économie entrepreneuriale de la connaissance, toujours 40% du PIB de la planète. Et donc, c'est toujours la puissance dominante, justement dans ces NBIC, c'est-à-dire N, c'est les nanotechnologies donc, qui permettent d'opérer, de fabriquer dans l'infiniment petit. B, ce sont les biotech, donc tout ce qui tourne autour des savoirs et savoir-faire sur le vivant. Le I, c'est justement les technologies de l'information et de la communication dans lesquelles les Américains excellent. Bon, il faut bien rappeler que c'est eux qui ont inventé Internet. Puis le C, c'est le plus en pointe pour les 15 prochaines années. Ce sont les technologies cognitives et donc tout ce qui va permettre de réaliser des couplages entre les régions cérébrales et les circuits électroniques qu'on est en train d'inventer.
Donc on voit bien que les États-Unis garderont pour les prochaines décennies un avantage considérable liée à leur niveau de possession de la recherche et de l'innovation.
Voilà, juste une incise sur ce point, c'est très important. Je ne dis pas ce qui va se passer au 22e ou 23e siècle, mais en tout cas, quand on regarde les 30 prochaines années, tout porte à penser que les Américains, à l'horizon des 30 prochaines années, conservent leur leadership dans ce domaine.
Tout à fait. Alors, il y a un point que j'ai beaucoup aimé dans votre analyse, c'est d'un point de vue géostratégique ou géopolitique, la place fondamentale que vont prendre les métropoles dans une logique d'alliance. Et ça, c'est assez révolutionnaire comme approche, d'autant que ça s'inscrit dans une logique de mobilité des masses vers les villes.
En quelques mots, ce que l'on observe depuis 20 ans, et ça a été maintenant reconnu par la Banque mondiale et par l'OCDE comme des éléments clés de la croissance de demain, c'est que la croissance est territorialisée. C'est-à-dire que la croissance ne se fait pas dans l'apesanteur, la croissance se fait dans des territoires très particuliers. Et on observe qu'il y a des territoires qui ont des croissances phénoménales et d'autres qui pourtant apparaissent relativement bien dotés et qui ont des croissances faibles. D'ailleurs, ici, on est au bord de la Seine et on est au cœur de Paris et de l'Île-de-France. Il faut dire que l'Île-de-France, c'est une des régions, le grand Paris potentiel qui n'existe pas dans les faits, qui est un rêve pour l'instant. Le grand Paris, avec ses 11 millions d'habitants, est potentiellement une des régions phares de la planète. Or, cette accumulation de richesses matérielles, intellectuelles, culturelles, depuis 10 ans, produit 1% de croissance, 1,5%, ce qui est ridicule. Alors que Singapour, avec 3-4 millions d'habitants sur un caillou, est à 7-8. Ça devrait être en Île-de-France qu'il devrait y avoir une croissance à 7-8, avec le potentiel que nous avons.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ?
Justement, toute la réflexion, c'est que ce qui fait la croissance d'une région et d'une métropole, c'est d'abord l'environnement économique et social qui doit favoriser la prise de risque dans l'économie entrepreneuriale, mais c'est aussi la capacité de favoriser la mobilité, puisque c'est la mobilité en zone dense qui contribue à créer la richesse. C'est en fait ce qu'on a observé, ces travaux qui remontent à un siècle, mais qui sont maintenant remis au goût du jour. C'est le nombre de contacts que vous pouvez avoir au cours d'une journée qui va être
l'intensité, en quelque sorte, de
l'intensité des contacts et des relations qui est au cœur de la croissance économique dans une économie de marché.
Et ça, donc, plus que jamais, les métropoles vont jouer dans une logique d'alliance un rôle. Alors, il y a des signes noirs, vous vous rappelez cet ouvrage qui a été
parti. Les signes CY.
C'est ça.
G-N-E. CY,
les animaux, les volatiles.
Les volatiles.
Alors, qui vont planer, mais bon, vous les recensez, vous en recensez 10. Voilà. Mais au bout de l'analyse, alors vous arrivez sur une conclusion qui est beaucoup plus rassurante, c'est qu'à partir des années 2030, 2033, et jusque dans les années, en tout cas ce que vous voyez à partir d'aujourd'hui, 2070, on pourrait rentrer dans une période d'âge d'or. Et je vous lis, parce que vous avez une écriture extrêmement agréable, en page 165, il y a un moment où, à partir des débuts des années 2030, la combinaison du vieillissement relatif des pays émergents et de la montée d'une classe moyenne mondiale de plus en plus prospère, y compris et surtout dans les pays émergents, conduira à la marginalisation des éléments les plus violents de la communauté mondiale pour ouvrir une période d'une trentaine d'années relativement calme et prospère à un nouvel âge d'or. Ces 30 paisibles serviront de fondation à la belle époque universelle. Alors ça, c'est un programme qui nous intéresse. Aujourd'hui, en plus, il fait très gris. Donc, je crois que ça mérite un petit développement.
Absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais le pari que se met en place un nouvel ordre mondial à partir de 2023-2024, qui se développe effectivement dans les 5-6 années qui suivent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, au fond, pour parler brutalement, c'est plus complexe, mais à partir du moment où les États-Unis et la Chine se mettent d'accord pour se partager les gâteaux et le font dans le cadre de ce que j'appelle dans le livre l'alliance des cités libres, c'est-à-dire qu'on reconnaît leur rôle à tous les autres pays. Donc, dans le cadre de cet ordre contractuel et ce nouvel ordre mondial, ce que l'on voit, c'est que tous ces pays puissants s'organisent pour contrôler les pays violents qui seront en nombre réduit et donc pour les mettre au pas. Et donc, sous l'hypothèse que ceci se produit, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On évoquait tout à l'heure la montée de ces NBIC, c'est-à-dire toutes ces technologies, nanotechnologies, biotech, technologies de l'information, technologies cognitives. Il faut savoir que ces technologies, même si elles ont déjà dans certains domaines des réalisations spectaculaires, elles sont en devenir. Et quand on analyse les grandes révolutions technologiques et techniques qui sont différentes des révolutions scientifiques. Si vous voulez, on peut séquencer le génome en quelques mois, mais avant que le séquençage du génome soit le support de technologies cognitives qui transforment la santé humaine, c'est 30 à 40 ans de délai. Or, ce que l'on dit ici, c'est qu'il y a toute une série de technologies qui évoluent actuellement en parallèle, hein, les nanotechnologies, les biotech, les technologies de l'information, les technologies cognitives, qui sont toutes à des niveaux de maturation différentes, mais qui vont toutes arriver à des niveaux de maturité assez élevés dans les années 2020 et début 2030. Et donc, à partir du moment où vous aurez la conjonction d'un état de paix mondial qui sera au fond contrôlé par les puissances dominantes au sein de l'Alliance des Cités Libres, et notamment la Chine et les États-Unis, à ce moment-là, ces technologies pourront se mettre au service des classes moyennes qui, à ce moment-là, représenteront un nombre considérable de personnes. Quand vous regardez la classe moyenne mondiale, vous aurez en 2050 9,4 milliards d'habitants sur la planète, normalement, d'après le Population Reference Bureau. Et donc, sur ces 9,4 milliards d'habitants, vous aurez une population dans la classe moyenne qui va représenter approximativement 3 milliards de personnes. Voilà. Et ces 3 milliards de personnes seront le fondement du développement de la planète. C'est-à-dire que toutes ces technologies qui arriveront à maturité dans les années 2030-2040, elles seront accessibles à ces 3 milliards de personnes.
Et ceux-là n'auront pas envie de faire la guerre.
Et ceux-là, un, n'auront pas envie de faire la guerre. Et deux, comme ils achèteront ces technologies, ce sont des nouvelles industries qui vont naître. De ce point de vue-là, on est dans une transition entre le monde de l'automobile et de la mécanique vers ce monde fondé sur les biotech et les technologies cognitives et les nanotechnologies. Et donc, ce sont des nouvelles industries qui vont naître dans le cadre de cette économie entrepreneuriale de la connaissance. Et tout le monde aura objectivement intérêt à laisser ces technologies se marier entre elles, se combiner pour apporter de nouveaux produits et services qui permettront d'améliorer massivement et la qualité de vie et la durée de vie en bonne santé. Et donc, on peut à ce moment-là anticiper ces fameuses 30 glorieuses, 30,
alors, nous n'avons
30
pas,
paisibles pour l'ensemble de l'humanité.
Nous n'avons pas beaucoup évoqué l'Europe, au passage, mais le simple fait que nous ne l'ayons pas fait dit tout sur ce que vous pensez de la place importante que pourrait avoir l'Europe dans ce jeu géostratégique. Vous parlez en plus de lâcheté occidentale, mais on en laissera à nos auditeurs découvrir.
Juste un point seconde. Oui. Je suis extrêmement pessimiste sur l'Union européenne en tant que telle, cette institution bureaucratique qu'on appelle l'Union européenne. En revanche, ce que je pense, c'est que l'Europe n'est pas finie en tant que telle et qu'on va assister, dans le cadre de ce maelstrom, notamment celui des 10 prochaines années, dans cette période de conflit entre la Chine et les États-Unis, à un retour des États-nations en Europe. Et c'est d'ailleurs la France, l'Allemagne, l'Angleterre pourront à nouveau jouer un rôle très important dans le cadre de cette alliance des cités libres.
Je termine en lisant une partie de conclusion. Rien n'est écrit et tout se construit. Le hasard peut surprendre la nécessité, mais dans les bouleversements prodigieux qui s'annoncent, la nécessité de l'action volontariste tendue vers l'excellence dans la transparence dominera le hasard. Les années du cygne noir, celles du glaive et celles du nouvel âge d'or auront un point commun, le triomphe de la volonté. Voilà, c'était les convictions de Christian Saint-Étienne qui vient de faire paraître « Guerre et paix au XXIe siècle, comprendre le monde de demain » chez Bourin, une conviction qui lui permet de choisir la paix et nous promet un âge d'or. On veut y croire. Merci à vous, Christian.
Merci.